Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis avec vous en ce vendredi tout blanc. Et donc, c'est l'hiver qui est arrivé, même si officiellement l'hiver arrive un peu plus tard, en décembre. Ça nous donne quand même un avant-goût et une pratique. Je voyais des gens en automobile qui n'avaient pas leurs pneus d'hiver et ça semblait vraiment pas drôle, loin de là. Transport en commun, merci d'exister. Alors aujourd'hui, on est ensemble jusqu'à 11h30. Et c'est Maurice Bolduc qui est à la mise en onde. Bonjour Maurice.
Oui, bonjour Hélène.
Êtes-vous fou comme un balai quand vous êtes levé ce matin et que vous avez vu la neige?
Non, mais c'est toujours beau à voir quand même que la neige tombe.
Hein? Oui. Mais c'est drôle quand même parce qu'on dirait que l'automne rencontre l'hiver. Moi, j'ai pas vu de tapis blanc. J'ai vu un tapis blanc, mais avec plein de feuilles.
Ah, non. Dans la ruelle chez nous, ben, je suis pas passé par la ruelle ce matin, là, mais les feuilles sont bien cachées.
Ah oui? Ça serait bien d'entendre une chanson de Beau Dommage. Je pense que c'est Chinatown où on parle d'hiver pour nous mettre un peu dans le bain, pour mettre de la poésie parce que je sais qu'il y en a qui la trouvent pas drôle, mais c'est toujours beau la première neige.
Oh oui, mais on est né ici, là.
Ici, dit-il.
Oui, oui, parce que ça revient, c'est un cycle qui revient tous les années. C'est pas un choc culturel.
Non, je sais, mais on n'en revient pas à chaque année. En tout cas, je parle pour plusieurs personnes.
Oui, peut-être parce que c'est arrivé un peu tôt, mais peut-être ça va fondre aussi, là.
Ah, peut-être, parce qu'on annonce très doux en fin de semaine.
Oui, donc. Alors. Ça sera la slush, la gadoue métropolitaine.
Oui, la gadoue. Alors, allez-y donc avec les éphémérides, mon cher.
16 novembre, oui, c'est la journée mondiale de la tolérance.
Tolérons la neige.
Oui, entre autres. Des événements en 1532 à Caxamalca, au Pérou. Le conquistador Francisco Pizarro capture le dernier empereur inca, Atahualpa. Il sera baptisé et supplicié à mort. En 1885, à Regina Louis Riel, meneur de la rébellion des Métis, est pendu pour haute trahison. En 1901, à Brooklyn, plus rigolo, trois automobiles atteignent la vitesse inouïe de 60 000 à l'heure. Donc, si vous le sentez, ça a accéléré un peu entre-temps. 1934, c'était la fondation de l'Orchestre symphonique de Montréal. 1945, création de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. En 1959, à New York, la comédie musicale de Sound of Music est créée sur scène. 1966, inauguration de la première centrale nucléaire au Canada à Douglas Point en Ontario. 1970, moins rigolo, un typhon suivi d'un raz-de-marée balaye le golfe du Bengale causant quelques 500 000 morts. C'est énorme, selon le Pakistan oriental.
Un demi-million.
Ouais, c'est
effarant.
Ouais, c'est énorme, un gros raz-de-marée. 1982, c'est la fin de la grève de 72 jours des joueurs de la Ligue nationale de football. En 1989, en Afrique du Sud, le gouvernement abroge le Separate Amities Act qui imposait la ségrégation sur les plages publiques. En 1994, en Saskatchewan, Robert Latimer est reconnu coupable du meurtre de sa fille gravement handicapée. Ce sera le début d'un long débat sur le suicide assisté et le meurtre par compassion. En 2004, un avion hypersonique sans pilote de la NASA atteint le Mach 10, donc 10 fois la vitesse du son, soit la vitesse de 11 000 km/h. On est loin de notre 60 000 à l'heure de 1901. En 2012, Michael Applebaum est élu maire intérimaire de Montréal par les membres du conseil municipal. Ça ne durera pas longtemps. Pardon.
Riez pas.
Non, faut pas rire du malheur des autres. Le poète Louis Fréchette naissait en 1939, en ce 16 novembre. Et toujours en ce 16 novembre, Clark Gable, l'acteur américain, roi de Hollywood, au début du cinéma parlant avec autant en emporte le vent, nous quittait en 1960. Il était né en 1901, donc mort assez tôt. Ça fait le tour de ce 16 novembre.
Merci, Maurice. Une de la presse, gaz naturel, investissement monstre, un gazoduc de 750 km, une usine de liquéfaction et un terminal maritime à Saguenay. Le plus important projet d'investissement privé de l'histoire du Québec, une affaire de 14 milliards est lancée. Mais verra-t-il le jour? Telle est la question. Attentat de Québec, 15 secondes, c'est comme une vie. Deux policiers racontent les premières minutes de leur intervention. Bombardier, les hauts dirigeants sous la loupe de l'AMF. La chronique d'Yves Boisvert, mettez la main sur la rampe. Et les Canadiens de Montréal ont remporté hier 3-2 contre les Flames de Calgary. Price a souri, on voit le gardien de but en une. Le 31 bloque 43 tirs dans une victoire du tricolore. S'il se réalise, ce sera le plus important investissement privé de l'histoire du Québec. Gazoduc, une nouvelle entreprise qui veut amener du gaz naturel de l'Ouest jusqu'au Saguenay, et Énergie Saguenay qui veut liquéfier ce gaz pour l'exporter sur les marchés internationaux, ont l'intention d'investir 14 milliards de dollars canadiens au Québec pour réaliser leur projet. Le projet Gazoduc, essentiel à la réalisation du projet Énergie Saguenay, démarre officiellement aujourd'hui. Il prévoit la construction d'une conduite souterraine de 750 km entre l'Ontario et le Québec, selon un tracé qui reste à déterminer dans la partie nord du territoire entre Rouyn-Noranda et Saguenay. Coût estimé du projet, 3,4 milliards US, soit 4,5 milliards canadiens. Et un peu plus loin, on peut lire que l'équipe locale des promoteurs, qui comprend notamment l'ancien député et militant écologiste Stéphane Tremblay, dit avoir déjà des appuis sur le terrain, notamment avec les communautés autochtones de Mastuach, Issipit et Pessamit. Selon le président de Gazoduc, il s'agit d'un projet très différent d'Énergie Est, puisque la conduite transportera uniquement du gaz, produit qui se dissipe rapidement dans l'atmosphère en cas de fuite, et dont les risques de contamination sont moindres. Contesté de toutes parts, le projet d'oléoduc Énergie Est a fini par être abandonné par TransCanada en 2017. Et réaction prudente chez les Autochtones, les chefs des communautés autochtones, dont les terres ancestrales seront traversées par le corridor à l'étude, pouvant accueillir le gazoduc souterrain de 750 km, ont fait preuve de prudence hier après l'annonce de l'important projet que caresse Gazoduc, n'ayant eu pour la plupart que bien peu de détails à se mettre sous la dent. Le territoire ancestral des nations Anishinaabe, Algonquine, Atikamekw et Innu sera traversé par le gazoduc devant transporter le gaz naturel de l'Ontario jusqu'au Saguenay si sa construction suit le tracé prévu. Selon nos informations, l'entreprise Gazoduc a communiqué avec les communautés autochtones par courriel ou en personne il y a quelques semaines. L'équilibre délicat de la relation patient-médecin. Un médecin peut-il assister aux funérailles de ses patients, être ami avec ceux-ci sur Facebook, manger avec la famille d'un patient à la cafétéria, assister à une fête organisée à l'hôpital pour un jeune malade? Une étude menée par la docteure Annie Janvier, néonatologiste, membre de l'unité d'éthique clinique et chercheuse au CHU Sainte-Justine avec des collègues américains, révèle que les médecins ont des avis variables sur le sujet. La Dr Janvier et son équipe ont sondé 370 médecins résidents américains travaillant en pédiatrie. Les résidents se sont fait présenter une quarantaine d'exemples d'interactions pouvant survenir entre un médecin et un patient et un parent de patient, comme prêter un livre ou de la musique à un parent ou écrire une carte de condoléances. Les répondants devaient se prononcer sur l'acceptabilité de ces actions et préciser s'ils avaient déjà vécu de telles situations. Proportion des répondants disant avoir déjà 85 % pris une photo avec la famille d'un patient, 78 % apporté une boisson à un parent à l'hôpital, 54 % assisté à des funérailles de patients, 19 % pris place spontanément avec un parent à la cafétéria de l'hôpital, 52 % écrit une carte de condoléances à une famille, 18 % donné leur numéro de cellulaire personnel. Porte-parole du Collège des médecins, Caroline Langis, explique que le Code de déontologie des médecins stipule que le médecin doit s'abstenir d'intervenir dans les affaires personnelles de son patient sur des questions qui ne relèvent pas du domaine de la santé. Proportion des répondants jugeant inacceptable, 94 % d'avoir une relation amoureuse avec un parent, 94 %. 58 % de garder un patient, 59 % d'inviter un parent à devenir ami sur Facebook et jugeant inacceptable d'aller prendre un café à l'extérieur de l'hôpital, 27 %. La source de tous ces pourcentages-là vient d'un document qui s'appelle « The Doctor-Parent Relationship and Pediatrics Trainees Experiences and Perspectives ». Le titre de Bombardier perdrait environ 15 % de sa valeur vendredi matin. Alors, ce n'est pas au conditionnel, c'est à l'imparfait. Alors, je reprends. Le titre de Bombardier perdait environ 15 % de sa valeur vendredi matin à la Bourse de Toronto. L'action de la multinationale québécoise valait 1,82 $ un peu avant 10 heures. L'Autorité des marchés financiers a confirmé jeudi qu'elle enquête sur des transactions internes sur des titres de Bombardier détenus par des hauts dirigeants de la multinationale. L'enquête de l'AMF vise les opérations entourant la mise en place en août dernier d'un régime d'aliénation de titres automatiques, RATA, par Bombardier, ainsi que les différentes annonces faites depuis. Entre-temps, l'autorité a demandé à Bombardier de suspendre jusqu'à nouvel ordre toute vente de titres en application du RATA et d'en aviser les courtiers exécutants. Les 5500 membres du syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec ont déclenché ce matin une grève de 3 jours, aucune entente contractuelle n'ayant été conclue entre les parties patronales et syndicales. La présidente du syndicat affilié à la CSN, Katia Lelièvre, a expliqué en milieu de semaine que les négociateurs syndicaux avaient laissé toute la place aux pourparlers au cours des dernières semaines et elle a reproché à la partie patronale de ne pas en avoir fait de même. La convention collective des syndiqués est échue depuis le 31 mars 2017. Les autorités américaines ont décidé d'imposer des restrictions draconiennes sur les ventes de cigarettes électroniques pour enrayer l'épidémie parmi les jeunes irrésistiblement attirés par ce produit sous sa forme aromatisée. L'Agence de santé américaine a annoncé hier qu'elle proposait d'interdire les ventes d'e-cigarettes aromatisées sur Internet. Celles-ci ne seront donc offertes qu'en magasin, des espaces fermés inaccessibles aux mineurs. L'Agence de santé américaine entend par ailleurs imposer une interdiction des ventes sur les cigarettes et les cigares mentholés, soulignant que le menthol sert à masquer les aspects repoussants de la fumée qui décourage un enfant de fumer. Avant de prendre effet, ces propositions doivent être soumises à une période de consultation publique qui doit durer jusqu'en juin, a-t-elle précisé. Et on en parlait en début d'émission de cette neige, Montréal qui se réveille sous une épaisse couverture blanche ce matin alors que la première vraie bordée de neige de la saison est en cours. À 7 heures, les flocons continuaient de tomber sur l'île. Environnement Canada prévoit un total de 10 à 15 cm de neige sur la métropole. L'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles, prévient la météorologue Catherine Brabant, qui travaille pour l'Agence fédérale. Puisque c'est la première neige et que ça risque de tomber fort, on voulait avertir les gens. Ça nous inquiétait, même si les quantités peuvent rester sous le seuil d'avertissement de 15 cm, a-t-elle ajouté. En Estrie, les accumulations pourraient atteindre 25 cm, toujours selon Environnement Canada. Tôt ce matin, aucune commission scolaire québécoise n'avait annoncé la fermeture de ses écoles. Le transport scolaire est toutefois annulé dans la région d'Ottawa et des écoles ont fermé leurs portes au Nouveau-Brunswick. Une quinzaine de vols en partance de l'aéroport Montréal-Trudeau sont retardés ou annulés. La Société de transport de Montréal avertissait que les effets de la tempête se font sentir sur les réseaux bus aujourd'hui et des retards sont à prévoir via les réseaux sociaux. Pour la sécurité de tous, adaptez votre conduite afin d'éviter les dérapages et les collisions, a mis en garde le service de police de la Ville de Montréal. Le sud du Québec est affecté par une dépression en provenance des États-Unis jusqu'à ce soir. Le système doit se déplacer vers la Nouvelle-Écosse et l'est de Terre-Neuve et Labrador.
Pour un infidèle, le cœur de pirate avec Jimmy Hunt.
En une du Devoir de ce 16 novembre, la pauvreté migre d'une école à l'autre. Des établissements de la CSDM seront privés du financement destiné à une clientèle vulnérable en raison des nouveaux indices de défavorisation. Projet de gazoduc de 750 km en sol québécois. Éclairage sur les dangers de la lumière artificielle. Aussi, en Ontario, Doug Ford sacrifie les francophones. En Grande-Bretagne, Theresa May est dans la tourmente. Et l'activisme silencieux émerge à la faveur des gestes individuels. Les élèves vulnérables de Montréal vont perdre un précieux soutien professionnel en raison d'un remaniement des fonds destinés aux écoles défavorisées. Selon ce que Le Devoir a appris, les nouveaux indices de défavorisation des écoles du Québec provoquent une onde de choc chez les directeurs d'école et les gestionnaires de la Commission scolaire de Montréal. La plus grande commission scolaire du Québec perd au change dans le calcul des nouveaux indices de défavorisation établis par le ministère de l'Éducation d'après les données du recensement de 2016. Ainsi, 27 écoles de la Commission scolaire de Montréal perdent leur statut d'école défavorisée, auxquelles étaient rattachés des fonds totalisant 2,98 millions de dollars. Ces écoles, situées pour la plupart dans les quartiers de Rosemont, la Petite Patrie, Villeray et le plateau Mont-Royal, ont changé de statut à la suite de l'arrivée de familles plus nanties dans le secteur, et pour certaines d'entre elles, c'est la saignée. Catherine Harel-Bourdon, présidente de la CSDM, a confirmé au Devoir les données préliminaires qui lui ont été transmises par le ministère de l'Éducation. « Ce sont des sommes importantes. On va faire des représentations à Québec pour qu'ils financent une transition, pour amortir le choc dans certains établissements », dit-elle. À l'inverse, 11 écoles de la Commission scolaire de Montréal gagneront en service alors qu'elles passent du statut favorisé à défavorisé, précise Mme Harel-Bourdon. Un plus grand nombre d'écoles en région obtiendront également des fonds supplémentaires. Pour désigner les écoles ayant droit à des fonds pour les élèves les plus vulnérables, le ministère de l'Éducation se base sur l'indice de milieu socio-économique. Cet indice tient compte de deux facteurs considérés comme cruciaux pour la réussite des élèves, soit la scolarité de la mère et l'activité ou non des parents sur le marché du travail. L'indice change lors de chaque recensement tous les 5 ans. Or, ces indices ne donnent pas un portrait complet de la réalité, estime la présidente de la commission scolaire. Ainsi, les mères sont peut-être plus scolarisées, mais dans bien des cas, notamment pour les immigrantes, le diplôme obtenu dans le pays d'origine n'est pas reconnu et n'est pas garant d'une vie sans difficulté. De même, elle croit qu'un nombre important de parents ont déclaré être actifs sur le marché du travail, ce qui se traduit par une plus grande favorisation, malgré le fait que plusieurs de ces emplois sont à temps partiel et mal rémunérés. On pense qu'on est beaucoup pénalisé par ces règles-là, explique Catherine Harel-Bourdon. Ce qui est très difficile, c'est que des élèves en situation précaire, il peut y en avoir dans toutes les écoles, qu'elles soient classées 1, très favorisées, ou 10, très défavorisées. Or, seules les écoles classées entre 8 et 10 obtiennent des sommes supplémentaires. Éclairage sur les dangers de la lumière artificielle, les oiseaux migrateurs, les insectes nocturnes, les amphibiens, les tortues de mer et probablement maintes autres espèces voient leur reproduction et leur vie compromises par l'éclairage artificiel qui ne cesse de proliférer. Les spectaculaires images captées depuis la Station spatiale internationale et les satellites en orbite autour de notre planète ont permis de mettre en évidence un accroissement de l'illumination artificielle des villes, autoroutes et bandes côtières durant la nuit. Cette lumière, qui a longtemps été considérée comme synonyme d'urbanisation, d'activité économique et de consommation énergétique, est de plus en plus vue comme une menace pour les écosystèmes biologiques ainsi que pour la santé humaine, souligne-t-on dans la dernière édition de la revue Science. La lumière artificielle qui illumine nos nuits dérègle le cycle circadien, soit la succession de périodes d'éveil et de sommeil qui sont régies par l'alternance du jour et de la nuit, sur lequel la majorité des êtres vivants sur Terre synchronisent leur comportement. Environnement, Longueuil a commencé jeudi le déversement de 162 millions de litres d'eau usée dans le fleuve Saint-Laurent. Shawinigan aussi a procédé à un rejet d'égout dans les rivières Saint-Maurice et Shawinigan dans la journée. Ces opérations ont été largement médiatisées, mais bien d'autres sont passées sous silence. Ainsi, en 2017, quelques 62 000 déversements d'eau non traitée ont été recensés au Québec, sans attirer beaucoup d'attention. Plus tôt cette semaine, la commissaire à l'environnement de l'Ontario, Diane Sachs, s'indignait du nombre de déversements d'eau usée dans les plans d'eau de la province. « C'est incroyable que le gouvernement permette le déversement d'autant d'eau d'égout dans nos lacs et rivières », a-t-elle dit aux médias jeudi. Son poste a d'ailleurs été aboli par le gouvernement de Doug Ford. Au Québec, le portrait est encore plus alarmant. Les données obtenues par Le Devoir auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques font état de 62 057 débordements survenus en 2017. Cette augmentation est principalement due au fait que les municipalités ont maintenant l'obligation de mesurer quotidiennement les débordements plutôt qu'une fois par semaine, comme c'était le cas pour plusieurs d'entre elles, a précisé par courriel le ministère. De plus, 83 municipalités québécoises n'ont toujours pas de système de traitement des eaux usées, a indiqué le ministère. Pour expliquer la multiplication des surverses, Mme Prévost, Michel Prévost, professeur à la chaîne industrielle CRSNG en eau potable de Polytechnique de Montréal, évoque notamment la stratégie pan-canadienne pour la gestion des effluents d'eau usée municipale de 2009, à laquelle le Québec n'a pas adhéré officiellement. On a un retard dans l'adoption d'objectifs de traitement plus grands et de minimisation des surverses, souligne-t-il. La chercheuse rappelle toutefois que la Coalition Avenir Québec a inscrit cet enjeu dans sa plateforme électorale. Un juge fédéral dira vendredi aujourd'hui s'il ordonne à la Maison-Blanche de rendre son accréditation à un journaliste de CNN privé d'accès à la présidence des États-Unis après un échange houleux avec Donald Trump. Le juge Timothy J. Kelly du tribunal fédéral de Washington devait initialement rendre sa décision jeudi à 15 heures. Moins de 2 heures avant cette échéance, il a annoncé qu'il la reporterait à vendredi 10 heures sans donner d'explication. Il a été saisi en urgence par la chaîne câblée qui demande la restitution de son accréditation à la Maison-Blanche pour son journaliste vedette Jim Acosta. Ce dernier a perdu son accès le 7 novembre après une conférence de presse tendue où il avait un temps refusé de rendre son micro. Alors, il est 10h26. On va vérifier si on a des nouvelles sur cette nouvelle, justement, et on vous en reparlera, évidemment, s'il y a lieu. Donald Trump et Kim Jong-un devraient se rencontrer de nouveau après le nouvel an, a indiqué le vice-président américain Mike Pence jeudi, insistant pour dire que son gouvernement ne referait pas l'erreur d'accepter des promesses rompues. « Nous pensons que le sommet se déroulera après le 1er janvier, mais nous devons encore déterminer quand et où », a-t-il indiqué à des journalistes en marge du sommet annuel de l'Association des pays d'Asie du Sud-Est. Le président américain et le dirigeant nord-coréen ont tenu un sommet historique à Singapour cette année qui a abouti à un accord de désarmement nucléaire dont les termes étaient restés vagues. Et c'est l'essai poignant consacré au drame de Mégantic par Anne-Marie Saint-Cerny qui a eu la faveur du jury du prix Pierre Vadeboncœur 2018, prix qui souligne la qualité d'un essai produit par un auteur québécois et édité par une maison d'édition d'ici. Publié chez Éco-Société, Mégantic, une tragédie annoncée, est une formidable enquête aux multiples dimensions, a fait valoir le jury composé de l'ex-présidente de la CSN, Claudette Charbonneau, de la professeure de littérature Catherine Ladouceur et de la journaliste José Boileau.
Ces nuits blanches et ces coupes de champagne, ces semaines sans dimanche, ces châteaux en Espagne. Elle a vécu centenaire en 50 ans à peine, à semer des repères sur les chemins de la bohème.
Comme elle était généreuse, elle aurait bien voulu notre peine est joyeuse,
que le spectacle continue.
On était ses sales gosses.
Elle nous aimait d'amour.
Elle nous bombait le torse.
Nos vies changeaient de cours. On tourne, tourne pas la page. On pense comme toi. Trop de chefs,
trop de chefs.
Pas assez,
pas assez.
De hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya.
Sans jamais vendre son âme,
ni celle des autres.
Le bout du monde et Paname, elle les mettait côte à côte. Elle s'est battue pour que vive
le spectacle vivant.
Elle prenait l'alternative
et les indépendants. On tourne, tourne pas la page. On pense comme toi. Trop de chefs,
trop de chefs,
pas assez,
pas assez.
De hey ya, 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 hey ya
allons nous soigner le cœur à la belle Villoise, trinquer et faire honneur à notre belle Iroquoise. La la la, stab da ba da, mambo ba da, mambo da ba ba, oh oh oh, Patricia. Tourne, tourne pas la page. On pense comme toi.
Trop de chefs,
trop de chefs. Pas assez,
non pas assez.
De hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey d'Indien.
La rue qui est à nous, Patricia.
En une du Journal de Montréal, le palmarès des écoles du journal. Voici les meilleures écoles près de chez vous, le top 5 de chaque région, le top 10 du réseau public, le top 10 du réseau privé. Et on nous invite à ne pas manquer demain notre cahier spécial de 32 pages à conserver. Appel au boycottage, Legault éclabousse SICO. Délit d'initié ou pas? L'AMF enquête sur Bombardier. Une performance exceptionnelle pour 52 écoles secondaires. Ces établissements, dont plusieurs accueillent beaucoup d'élèves en difficulté, s'améliorent grandement. Une cinquantaine d'établissements secondaires, dont plusieurs accueillent une forte proportion d'élèves en difficulté, ont réussi cette année à améliorer leur classement dans le palmarès des écoles du journal, dominé de nouveau par des établissements privés et à vocation particulière. La progression d'une école est plus importante que le classement lui-même, affirme Peter Coley, auteur de ce classement réalisé par l'Institut Fraser. Le palmarès des écoles secondaires, qui sera publié intégralement demain dans un cahier spécial de 32 pages inséré au centre de votre journal de Montréal, est basé en grande partie sur les résultats des élèves aux examens ministériels de 4e et 5e secondaire. Les écoles qui sélectionnent leurs élèves trônent généralement en tête de ce classement, comme c'est le cas pour plusieurs établissements privés et établissements publics offrant le programme d'éducation internationale. Or, les 52 écoles qui ont gravi les échelons au cours des dernières années prouvent qu'il est possible de s'améliorer, quelles que soient les caractéristiques des élèves, souligne M. Coley. Les écoles secondaires Jeanne-Mance et Pierre-Dupuis à Montréal font partie des écoles qui ont réussi ce tour de force. Ces établissements sont en forte progression depuis 5 ans, alors qu'ils accueillent respectivement 51 % et 61 % d'élèves en difficulté. C'est toutefois l'école secondaire de Passepébiac en Gaspésie qui a connu la plus forte amélioration, étant passée du 315e rang provincial en 2013 au 83e en 2017, ce qui la place parmi les 15 meilleures écoles publiques québécoises, alors qu'aucun élève n'y est sélectionné. Encore une fois, cette année, le palmarès comprend 2 classements permettant de faire la distinction entre les écoles publiques et privées. 3 écoles récoltent la note parfaite de 10, 2 collèges privés, Jean de Brébeuf et Jean Eudes à Montréal, et l'École publique d'éducation internationale de McMasterville. Par ailleurs, dans chaque région, certaines écoles se démarquent des autres, comme le relève le classement régional qui se trouve un petit peu plus loin dans le journal. L'Institut Fraser reconnaît que ce classement ne tient pas compte des facteurs qui peuvent influencer la performance académique des élèves, comme les troubles d'apprentissage. Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage sont d'ailleurs en augmentation, leur proportion étant maintenant de 26,1. Alors, dans le top 10, Jean de Brébeuf, Jean Eudes, je l'ai déjà mentionné, sont des écoles privées et obtiennent la note parfaite de 10. Dans les écoles publiques, note parfaite va à l'École d'éducation internationale de McMasterville, suivie de près avec 9,9 de l'École internationale de Montréal. Et si on va à l'extérieur de Montréal, les notes les plus élevées, 9,5 à l'école Saint-Joseph-de-Hall à Gatineau en Outaouais, et 9,6, c'est une note obtenue par l'École d'éducation internationale à Laval. L'école privée Saint-Sacrement à Terrebonne obtient un 9,8 sur 10. En Montérégie, 10 sur 10 pour l'école d'éducation internationale de McMasterville, 9,1 pour l'école Lucille Tisdale à Brossard. Et vous aurez tous les détails, comme je vous le disais, si ça vous intéresse, d'avoir l'information complète demain dans le Journal de Montréal. Une nouvelle qui a beaucoup, beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a publié une photo sur son compte Twitter mercredi à propos de sa rencontre avec le premier ministre du Conseil des affaires d'État de la Chine à Singapour, M. Li Keqiang. Il a mentionné, entre autres, qu'ils avaient discuté de la réduction de la pollution plastique. Le hic, c'est que la table est remplie de bouteilles d'eau en plastique, ce qui n'a pas échappé aux internautes. Ils ont été nombreux à dénoncer l'ironie. M. Trudeau est au cœur d'un voyage de 10 jours. Il est allé à Paris, puis à Singapour, et il se rendra en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il faudra 10 ans et non 5 pour remettre en état acceptable les rues montréalaises. L'administration Plante a décidé de favoriser les réfections complètes plutôt que le simple resurfaçage. La Ville de Montréal a détaillé hier sa stratégie annoncée dans le budget la semaine dernière. Elle prévoit maintenir ses investissements à environ 255 millions de dollars annuellement pour l'asphaltage. Ce qui change, c'est la manière dont cette enveloppe sera dépensée. Nous avons pris la décision d'annuler l'accélération du nombre de chantiers prévus. Livrer 500 km de nouvel asphalte année après année, c'était complètement irréaliste, a jugé le responsable de l'urbanisme au comité exécutif, Eric Allen Caldwell. Le chef de l'opposition et responsable des infrastructures dans l'ancienne administration Coderre, Lionel Pérez, a décrié ce changement de cap. La vague VG déferle sur Montréal. L'Association végétarienne de Montréal, AVM, s'affaire ces jours-ci à compléter l'édition 2019 d'un annuaire annuel qui répertorie tous les commerces végétariens ou végétaliens à Montréal. Pour la partie restaurant, il y a entre 5 et 7 ans, c'était juste sur une carte professionnelle recto verso, donc il y a 5-7 ans. Aujourd'hui, on a un guide qui fait une vingtaine de pages à peu près. S'est réjouie hier la vice-présidente de l'AVM, l'Association végétarienne de Montréal, Florence Skanvik. Le nombre d'adresses qui composera l'annuaire 2019, tout commerce confondu, aura bondi de près de 20 % par rapport à l'édition 2018, passant de 280 à 332. Il y a beaucoup plus de fibres dans ce type d'alimentation. Ce qui a des bienfaits pour la santé cardiovasculaire, entre autres. Et vu que c'est beaucoup plus de cuisine maison, il y a beaucoup moins de sucre, de sel et de matières grasses, dit la nutritionniste et blogueuse Marjolaine Cadieux. Selon Florence Skanvik et Marjolaine Cadieux, la multiplication des restaurants végétariens ou végétaliens a l'avantage de faciliter la transition vers une alimentation végétale chez les consommateurs de viande. Et finalement, le nombre de personnes portées disparues dans l'incendie qui ravage actuellement la Californie est monté hier soir à plus de 600 personnes, a annoncé le shérif local. Le nombre de morts dans l'incendie appelé Camp Fire, qui était déjà le plus meurtrier jamais vu dans cet État de l'Ouest, a lui aussi été relevé à 63 personnes, après la découverte de 7 corps supplémentaires, a déclaré le shérif du comté de Butte. Par ailleurs, la Maison-Blanche a annoncé que le président Donald Trump se rendra en Californie demain. Au huitième jour du sinistre, les autorités locales poursuivaient hier leur recherche des victimes, notamment à Paradise, près de la ville de Sacramento.
À la folie par Juliette Armanet.
Nouvelle canadienne, mais tout d'abord, je vous avais promis de vous tenir au courant à propos de cette décision du côté des États-Unis. Un juge américain a donné raison vendredi au réseau CNN face à l'administration de Donald Trump et ordonné le rétablissement immédiat de l'accréditation du journaliste Jim Acosta auprès de la Maison-Blanche.
Thank you.
Ottawa, on en parle dans les journaux ce matin, notamment dans le journal de Montréal, des Franco-Ontariens sous le choc dénoncent que le premier ministre Doug Ford fait reculer le fait français en mettant la hache dans les services aux francophones. C'est dévastateur, c'est un recul incroyable, dénonce Carole Jolin, président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Ça a été l'état de choc total. Le gouvernement conservateur a présenté hier une mise à jour économique avec des mesures fortes et controversées comme la fin du projet d'université de langue française et l'abolition du commissariat aux services en français. Il s'est justifié en disant devoir prendre des décisions difficiles pour remettre les finances de l'Ontario sur les rails. Les réactions n'ont pas tardé à fuser. C'est vraiment sérieux. C'est un bon exemple de pourquoi des communautés francophones disparaissent. C'est deux gros coups en même temps. C'est une journée sombre, a dit Linda Cardinal, professeure et titulaire de la chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques à l'Université d'Ottawa. Il s'agit d'un bris de confiance important puisque le gouvernement avait pris des engagements contraires, souligne-t-elle, renversés. Quant à M. Jolin, il appelle à la mobilisation, citant la bataille qu'ont livrée les Franco-Ontariens pour préserver l'hôpital Montfort. Jour noir pour l'Ontario français est un jour noir pour l'ensemble des communautés francophones du Canada, a écrit la sénatrice du Manitoba Raymonde Gagné sur Twitter. Les conservateurs démontrent leur manque de respect face aux 600 000 franco-ontariens et les millions de francophones au pays, ainsi que leur incapacité de protéger le fait français chez nous, a réagi la ministre fédérale des langues officielles et de la francophonie Mélanie Joly, qualifiant le tout d'inacceptable. Le premier ministre du Québec, François Legault, compte, de son côté, aborder le sujet avec M. Ford lors d'une rencontre prévue lundi. Évidemment, je souhaite qu'on protège le français en Ontario, a-t-il dit. L'Association sportive des aveugles du Québec est fière d'annoncer la participation du Québec au tournoi Invitation de Gold Ball de la Nouvelle-Écosse qui aura lieu du 16 au 18 novembre, alors à partir d'aujourd'hui. Les athlètes Rakibul Karim, Josué Coudé et Simon Tremblay se rendront à Halifax pour participer à cette quatrième édition du tournoi. Ils seront accompagnés de Nathalie Séguin, entraîneur en chef, et de Viviane Marcotte-Lheureux, assistante entraîneur. Deux arbitres québécois seront aussi présents, Claude Dagenais et Frédéric Patonde. Une particularité cette année, l'équipe du Québec sera composée entièrement d'athlètes non-voyants. Nathalie Séguin, entraîneur en chef, affirme que le développement de ces athlètes est parfois plus long. Et je suis fière qu'au Québec, on développe bien ces athlètes. Grâce à cette préparation, on est en mesure d'avoir une équipe compétitive pour ce tournoi. Les demi-finales se tiendront dimanche, 18 novembre, en avant-midi. Elles seront suivies d'un match d'exhibition, des finales et de la cérémonie de remise des médailles en après-midi. Santé IPE, île du Prince-Édouard, offre des cliniques gratuites de dépistage du diabète et d'évaluation du risque de diabète à l'intention des insulaires, et ce, à divers endroits dans la province ce mois-ci. Novembre est le mois de la sensibilisation au diabète. La Journée mondiale du diabète, qui a lieu aujourd'hui, offre une belle occasion pour en apprendre davantage à propos de la sensibilisation au diabète, ainsi que la prévention et la détection précoce de la maladie. On encourage les insulaires à se rendre à l'une des cliniques affichées sur le site www.health.pei pour Île-du-Prince-Édouard, pei.ca/clinique au pluriel, trait d'union, MPOC en majuscule, trait d'union, diabète. Et la journée du diabète, c'est pour être plus précise, le 14 novembre, puisque cet article est tiré d'un journal qui s'appelle La Voix acadienne, et cet article a été donc publié le 14. Le diabète touche la vie de nombreux insulaires et leurs familles. Le gouvernement prêtait une attention renouvelée au diabète et nous voulons nous assurer que les services essentiels fondés sur des pratiques exemplaires sont accessibles pour l'évaluation, l'intervention et la gestion adéquate de cette maladie, a déclaré le ministre de la Santé et du Mieux-être, Robert Mitchell. Nous avons réussi à mettre en œuvre les objectifs de la stratégie actuelle sur le diabète et nous avons hâte de lancer une nouvelle stratégie au début de 2019 qui précisera où nous devons concentrer nos efforts au cours des 4 prochaines années. Plus de 15 000 insulaires vivent avec le diabète, c'est-à-dire environ une personne sur 9 âgée de plus de 20 ans. En moyenne, 860 insulaires reçoivent un diagnostic de diabète chaque année. Dans le journal Le Rempart, récemment, le Centre d'orientation pour les adolescents du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent tenait ses journées de distribution de vêtements d'hiver pour les nouveaux arrivants. Cette opération, qui en était à sa 6e édition, marque à cette époque de l'année le lancement d'une série d'activités destinées à venir en aide aux personnes et familles nouvellement arrivées, ou encore dans une période creuse au plan économique. Encore une fois, cette année, la presque totalité des vêtements a trouvé preneur rapidement. Au total, près de 1000 articles étaient offerts lors de cette corde à linge. Et sans surprise, la première journée a permis à plusieurs familles de bien s'équiper pour la saison froide qui s'amorce. Les articles non choisis seront remis à un organisme qui se chargera de les donner. La prochaine édition de la corde à linge, l'événement s'appelle ainsi la corde à linge communautaire, se tiendra au printemps 2019. Dans le journal La Liberté, 100 choristes jeunes et adultes, une brochette de solistes et une narratrice rendront hommage le 16 novembre d'une seule voix aux femmes pionnières qui ont contribué à l'aventure de l'Ouest canadien. Ces femmes, elles s'appelaient Marie. En 2012, sœur Janine Vermette a assisté au Choralie internationale Edmonton, où elle a pu entendre « elle » au pluriel s'appelait Marie, une grande fresque musicale composée par Marie-France Levasseur-Ouimet. J'étais enchantée. Quel bel hommage à nos ancêtres. En l'espace d'une soirée, Mme Ouimet avait réussi à brosser le portrait type d'une femme canadienne-française venue du Québec pour s'établir dans l'Ouest. Et en concevant cette femme fictive, elle nous avait présenté toutes les femmes pionnières. Ainsi, je pouvais facilement retrouver ma grand-mère Vermette et ma grand-mère Dorge. Tant d'autres franco-manitobains de souche vont aussi pouvoir retrouver leurs ancêtres dans le récit. Les nouveaux arrivants, pour leur part, vont pouvoir découvrir ces femmes fortes, leur courage et leurs défis, leur foi. Il fallait absolument présenter ce spectacle dans le cadre du 200e anniversaire de l'arrivée du clergé catholique dans l'Ouest. Intimement convaincue de l'importance de l'ouvrage de Marie-France Levasseur-Ouimet, Janine Vermette a fait appel aux musiciens Gérard Jean et Bruce Waldie. Résultat, elle s'appelait Marie, présente 16 chansons interprétées par un chœur de 80 choristes venus de partout au Manitoba, accompagné des 20 jeunes voix de la chorale des Petits Intrépides, le tout enrichi de solos au violon et à l'accordéon, de la projection d'images et d'une narration qui retrace symboliquement la vie d'une jeune Québécoise du nom de Marie. Elle s'appelait Marie et divisée en 3 tableaux, la vie, la mort et la renaissance. Alors, le spectacle est présenté, je le disais donc, le 16 novembre. C'est aujourd'hui, c'est à 19h30 à la cathédrale de Saint-Boniface. L'entrée est gratuite et le public est invité à faire un don pour le centre Flavie Laurent.
Je suis bitumineux, j'ai comme plein de sortes dans les yeux. Je vois, rien, ça paraît-tu. J'suis comme balancé sur mon cul. Je suis bitumineux, je vous promets un beau cancer. Cancer parlementaire, je suis le dernier des gouvernements. Je veux tuer notre environnement, j'ai une crampe au cerveau. Yeah. Je vous soumets mes résolutions, des mensonges pleins de pollution, j'ai une crampe au cerveau. J'aime pas la French culture, ça fait trop longtemps que ça dure. Je suis vraiment déterminé à vraiment vous éliminer. Je suis un vrai républicain, le reste moi je comprends rien. J'ai une crampe au cerveau, yeah, yeah. J'adore les Américains, le reste on n'a pas besoin. J'ai une crampe au cerveau. With my acid rain, wash my hands with my holy sins. I'm gonna give you cancer, there's my answer. Put my guns right in your face, make you run from the human race. I'm gonna dress you up like the Mother Queen, fuck you up like you've never seen. Welcome to my one-man show, that's all you gotta know. But I love you so, yeah, yeah. Welcome to my one-man show. If you don't like, I don't wanna know. But I love you so, yeah. J'aime comme au cerveau, yeah, yeah. Give you cancer, there's my answer. Put my guns right in your face. I'm gonna make you run from the human race. I'm gonna dress you up like the Mother Queen, fuck you up like you've never seen. Welcome to my one-man show, that's all you gotta know. But I love you so, yeah, yeah. Welcome to my one-man show. If you don't like, I don't wanna know. But I love you so. Yeah.
see between the rain. Couple seven.
Serge Fiori, crampe au cerveau.
Salon du livre qui bat son plein jusqu'à lundi inclusivement. J'y étais hier et j'ai fait de très belles rencontres. Alors, venez nous voir. Nous sommes au stand 568 Vues et Voix et Canal M. Vous allez rencontrer des gens qui y travaillent, des bénévoles également. Et tout ça, c'est fait dans le plaisir. Et hier, il y avait aussi le lancement du livre audio « Les voix de Nelly Arcan ». C'était présenté sur la grande place avec les actrices qui ont contribué à l'enregistrement de ce livre audio. Il y avait Mara Tremblay, Angèle Coutu, Pascal Monpty, Fanny Mallette. Il ne manquait que Sophie Cadieux qui avait été retenue pour une cause, des raisons professionnelles. Alors, le livre audio est maintenant disponible et la rencontre a été vraiment très, très émouvante. Je ne sais pas si vous connaissez Nelly Arcan, mais c'est l'auteur, entre autres, de « Putain et de folle ». Et les actrices ont lu des extraits de ces œuvres-là qui se retrouvent sur l'album, en fait, le livre audio qui est maintenant disponible. Disponible, entre autres, à notre kiosque 568. Et restons dans le salon du livre. La Fondation pour l'alphabétisation a reçu hier le prix Fleury-Mesplet 2018 pour son programme « La lecture en cadeau ». Cette distinction est octroyée par le conseil d'administration du Salon du livre à une personne ou à un organisme qui contribue au progrès de l'édition québécoise. L'initiative « La lecture en cadeau » existe depuis 20 ans et promeut l'achat de livres neufs qui sont ensuite redistribués à des enfants de milieux défavorisés, âgés de 12 ans et moins. Marc Labrèche dans la tête des artistes. On connaît Marc Labrèche, l'acteur et l'animateur. Or, il y a aussi le documentariste. On le découvre avec le cri du rhinocéros qui recueille les confidences de créateurs d'ici, de la France et des États-Unis à partir d'une question toute simple mais riche de sens. Un artiste peut-il avoir tout dit? Œuvre comme il ne s'en fait plus. Le cas de Marc Labrèche est unique. Ce documentaire s'amorce avec une histoire inventée, celle du jeune Henri Duberger, qui a soulevé les passions en imitant des cris d'insectes et d'animaux, son plus célèbre étant celui du rhinocéros. À partir de cette prémisse et la présentation des deux extraterrestres qu'il dit côtoyer tous les jours, celui qui a conduit les entrevues devant la caméra a signé le scénario et s'est attardé devant la caméra à signer le scénario dont, et s'est attardé à la réalisation par à la rencontre de cinéastes, de chanteurs et d'écrivains. Alors donc, il part à la rencontre des cinéastes, des chanteurs et d'écrivains. En à peine plus de 50 minutes, le téléspectateur est témoin de pas moins de 17 courts entretiens. Il y a ceux avec les cinéastes québécois Xavier Dolan, Denis Arcan, Denis Villeneuve et François Girard, d'autres encore avec des romanciers tels que Frédéric Becbédé, John Irving et Jonathan Franzen. Par contre, on sourcille en constatant que du nombre, seulement deux sont des femmes, Ariane Moffat et Charlotte Gainsbourg. Un échantillon bien mince, et force est d'admettre que quelques minutes à peine avec des gens aussi expérimentés, c'est trop peu, écrit Yann Lauzon dans le Journal de Montréal. Heureusement, les angles abordés lors de ces tête-à-tête des deux côtés de l'Atlantique piquent la curiosité. De la redondance à laquelle sont confrontés les artistes, Frédéric Becbédé dit « Ce n'est pas grave de se répéter, c'est normal. C'est parce qu'on a trouvé sa voix, on a trouvé le ton qui nous correspond. » Denis Villeneuve, lui, avoue être habité par l'idée de se répéter. Deux d'entre eux, Denis Arcan et François Girard, dévoilent des images surprenantes de l'aspect créatif. « Il faut obéir à ces démons », affirme le premier. « On est des réveilleurs de monstres », précise le deuxième. Le cri du rhinocéros sera diffusé le 27 novembre à 21h sur les ondes d'ICI Télé, ICI Tout TV, ICI Art TV et ICI RDI le relayeront plus tard. Alors, à voir si vous aimez Marc Labrèche et que vous êtes curieux de découvrir le documentariste qui se cachait dans Marc Labrèche dans Le cri du rhinocéros. L'univers country sied bien à Brigitte Boisjoli. La chanteuse a donc décidé d'y replonger le temps d'un projet sur disque intitulé Woman. Après s'être intéressée au succès de Patsy Cline, voilà que l'ex-académicienne puisera dans le répertoire des années 1950 et 1960, saluant en passage Tammy Wynette, Patty Page, Connie Francis, Loretta Lynn et Brenda Lee. Déjà enclenché à Nashville, au Tennessee, l'enregistrement de ce prochain opus a lieu sous la supervision de Carl Marsh, aussi réalisateur de l'album de Brigitte Boisjoli en hommage à Patsy Cline. Et un quatrième album de proximité pour mieux se retrouver envers et contre tout ce qui nous isole. C'est Sylvain Cormier qui parle du nouveau disque de Fred Pellerin qui sort aujourd'hui. En 2011, à la fin de l'album « C'est un monde », Fred Pellerin entonnait la mère chanson sur un air d'espérance plein de souffle. En 2014, la chanson-titre de l'album « Plus tard qu'on pense » était une sorte d'appel à l'action. Et Fred y chantait gravement les mots de René Richard Cyr « Si t'as quelque chose à faire, dis-les moi ». Dis-les moins, puis fais-les. 4 ans plus tard, Fred chante tout près du micro, murmure, chuchote presque son nouvel album. Souffle court, le titre tient en un mot, après, sans ponctuation, ni point de suspension, ni point d'interrogation. Après et rien d'autre. À chacun d'écrire la suite. Sur la photo de pochette, Fred Pellerin debout dans l'herbe, forêt à l'arrière-plan, regarde au loin, les mains dans les poches, l'air triste, à tout le moins pensif. En 2014, commente-t-il, on était peut-être encore sur le Willy du printemps érable. Là, on dirait que ça fait une couple d'années que le soleil s'est pas levé. Nos voisins du Sud, les changements climatiques, tout est pesant, tout nous tire vers le bas. La force d'inertie est incroyable. Alors oui, forcément, on regarde l'après et on se demande de quoi ça va être fait. Dans son mot d'introduction, il ajoute sur le ton du doute, « Après, c'est une petite porte installée dans le mur de la fin. » La possibilité d'un passage sur le grand recommencement. Possibilité, petite porte, oui, petite. C'est une petite ouverture et un méchant mur pas mal géant. Oui, j'ai de grands bouts où je me pose plein de questions. Et l'album se termine sur « Amène-toi chez nous » en version décapée où le grain des mots de Jacques Michel ressort comme jamais auparavant. N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. La voix de Fred change quand il évoque la chanson, ça lui fait du bien. C'est grand comme du Brel, Amène-toi chez nous. On avait fini par ne plus l'entendre à force de l'entendre gigantesque, gonflé à la démesure d'un concours télévisé. On dirait que porté par le moins possible d'instrumentation, juste une guitare, un peu de lap steel, une clarinette douce, on peut vraiment croquer dans la chanson, la manger au complet. J'avais besoin de ça. Alors, il y a d'autres chansons, des originales, des reprises, une chanson de Daniel Lavoie, la chanson aussi du camionneur, du vagabond volontaire Pierre-Roger Rochette, « Je redeviens le vent », une chanson de Martin Léon, « L'étoile du Nord » de Gilbert Langevin et Claude Gauthier. Et il a fait l'inventaire de son catalogue David Portelance, trouvé 3 chansons qui attendaient leur tour et dont le tour était venu. « Ramassis » non, « Rapatriement » pendant qu'il est temps. Alors, on a bien hâte de vous faire découvrir ce nouvel album de Fred Pellerin intitulé, je vous le rappelle, « Après ». Thank you. 10, c'est le nombre de salles en France où Chien de garde a pris l'affiche mercredi. Le film de Sophie Dupuis, qui représente le Canada dans la prochaine course à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, a droit à une sortie progressive là-bas. Des écrans supplémentaires devraient lui être attribués la semaine prochaine. À Paris, seul le Saint-André-des-Arts, cinéma indépendant voué aux films d'auteur, le propose pour l'instant.
Dans Chinatown, on s'est promené dans les vitrines. On a trouvé un magasin qui sentait l'Orient. On a marché toute la soirée. Tes potes faisaient mal aux pieds. Les vieux chinois nous regardaient, nous autres on souriait. La première neige est tombée sur les Chinatown. Les rues sont glissantes, y'a un accident au coin de Saint-Hubert et Jean Talon. Dans l'escalier de ton appartement, ta main cherchait ta clé en tremblant. Les voisins d'à côté criaient, tout de suite on est entré. Par la fenêtre on voyait la neige tomber. Tu m'as demandé combien de temps l'hiver allait durer. La première neige est tombée sur le Chinatown. Au coin du boulevard, puis la 22e, ils ont trouvé un char abandonné.
Dommage, Chinatown.
Le lendemain, la neige avait disparu. C'est peut-être ça qui va arriver en fin de semaine parce qu'on prévoit des températures plutôt douces. Mais le Père Noël, lui, fera son apparition. Ça y est, il sera de retour demain pour son défilé annuel sur la rue Sainte-Catherine, de la rue Dufort à la rue Saint-Urbain. Annie Villeneuve et Michael interpréteront des classiques du temps des fêtes. Marie-Ève Janvier, Harry Cuicui et la fée des étoiles Vanessa Pilon seront également de la fête. Départ 11h demain, Sainte-Catherine et Dufort. Et si vous préférez attendre dimanche, le Père Noël sera au 10h30 à partir de 11h sur l'avenue des Lumières, départ à la place Extasia. Il recevra les enfants de 12h15 à 16h30 à la maison de Noël. Charles-Élie Couture est chanteur, compositeur, écrivain, peintre, photographe. Bref, il est un artiste multiste. C'est comme ça qu'on l'écrit et on le met entre guillemets. Au Québec, on le connaît mieux par sa musique, mais jusqu'au 29 novembre, on a l'occasion de découvrir sa peinture. C'est à la galerie Griffintown, située au 1894 rue Notre-Dame-Ouest.
Thank you.
autres suggestions sorties pour le week-end dans le cadre de l'exposition Françoise Sullivan du Musée d'art contemporain de Montréal, la chorégraphe Catherine Lavoie-Marcus et 6 autres performeurs présentent la performance atelier de danse Les Anarchives Sullivan. On est dans les mots inventés ce matin. Les Anarchives Sullivan, une relecture des archives sur les œuvres et la vie artistique de l'artiste. Rendez-vous sur les lieux mêmes de l'exposition demain et dimanche de 13h30 à 16h30 et c'est situé au 185 rue Sainte-Catherine-Ouest. On parle ici du musée des arts contemporains, le musée d'art contemporain, le MAC. L'entrée est entre 6 et 17 $. Pour la deuxième année, la Fondation Véro et Louis s'associe à la soirée Ogilvy en fête le 21 novembre prochain. Il s'agit d'une soirée de magasinage exclusive de 19h à 22h dans une ambiance de fête. Au programme, musique, DJ, station de manicure et de maquillage ainsi que des petites bouchées. Le prix des billets est fixé à 100 $ et comprend une carte cadeau de 25 $ qui peut être utilisée dans les boutiques de la maison Ogilvy. Et les profits de la vente des billets ainsi que 10 % des ventes de la soirée seront remis à la Fondation Véro et Louis, qui a pour objectif de construire des maisons adaptées pour les adultes autistes. Le Carrefour québécois des personnes aveugles invite ses membres à un déjeuner-conférence du psychologue François Côté, c'est dimanche 18 novembre, sur le thème « Mieux vivre avec ses peurs ». Qu'on le veuille ou non, les peurs et l'anxiété font partie de notre quotidien. Souvent accusées, mal aimées, elles sont perçues comme des entraves dans notre vie. Nous tenterons ensemble de les mieux connaître, les apprivoiser, nous observerons les fonctions et rôles majeurs qu'elles jouent dans toutes les différentes facettes de nos vies. Et puisqu'elles sont là pour rester, comment l'on peut s'en faire des alliés? Cet atelier va se dérouler dans le cadre d'un déjeuner-conférence où les participants auront aussi l'occasion d'interagir avec le psychologue M. Côté, François de son prénom. Ça se déroule au centre Cécitas Lyon, situé au 523 boulevard Louis XIV. C'est donc dimanche, de 9h à midi. Coût pour une personne handicapée visuelle, 8 $. Coût pour un accompagnateur, 12 $. Coût pour une personne voyante non accompagnatrice, 15 $. Et pour vous inscrire, vous joignez Mme Danielle Lessard au 418-622-5314, 418-622-5314. La Ligue canadienne de football a annoncé hier qu'elle allait ajouter un 8e officiel qui aura comme seule responsabilité de surveiller les coups portés à la tête ou au cou d'un quart arrière lors des finales de l'Est et de l'Ouest et lors de la 106e Coupe Grey. Selon la Ligue, ce changement a été adopté après qu'un coup eût été asséné au-delà de la hauteur permise au quart arrière des Rough Riders de la Saskatchewan, Brendan Bridge. la semaine dernière en demi-finale de l'Ouest. Sur la séquence, le geste n'a pas été puni, puisque les images captées par une caméra portée par l'arbitre en chef ont révélé que la vue de ce dernier avait été obstruée par un autre joueur. Il est très important que ce type de jeu potentiellement dangereux soit pénalisé sur le terrain, en plus d'être soumis à des mesures disciplinaires supplémentaires le cas échéant. Non seulement c'est important pour l'intégrité du sport, mais aussi ça peut être dissuasif, a déclaré le commissaire de la LCF, Randy Ambrosi. Et rien de ce que nous faisons en matière de sécurité des joueurs ne doit être considéré comme la solution ultime. Notre approche doit évoluer constamment, mais nous croyons que c'est un pas en avant. Nous continuerons de chercher des moyens de pénaliser les jeux dangereux et mieux encore de les prévenir. La décision d'agir a été prise après que la question de la sécurité du quart arrière eût été discutée cette semaine avec les 9 clubs de la LCF. Et avis aux amateurs et amatrices de magie, samedi et dimanche de 10h à 20h à l'hôtel Hyatt Regency de Montréal, c'est dans l'immeuble du complexe des Jardins, vous pourrez visiter une foire parrainée par l'entreprise Crystal Dreams, c'est gratuit, et ça s'appelle le Salon métaphysique et spirituel de Montréal. Et bien sûr, il y a le Salon du livre de Montréal à la place Bonaventure jusqu'à lundi inclusivement. Vous allez pouvoir rencontrer plus de 2500 auteurs, offrir un livre neuf à un enfant en le déposant dans une des boîtes installées dans le salon ou en se rendant au kiosque de la Fondation de l'alphabétisation. Ici Hélène Denis qui dit merci à vous d'avoir été à l'écoute, puis je vous souhaite une belle fin de semaine, peut-être dans le pelletage, je sais ce que je m'en vais faire dans quelques instants. Merci Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. On se retrouve lundi, à bientôt.